C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Les amis, aujourd'hui épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir Marc Briand-Terlet. Il est le fondateur et le patron de la marque Horace. Alors pour ceux qui habitaient dans une grotte ces 5 dernières années, Horace, c'est la marque de produits de beauté pour hommes, une marque née sur Internet, 100% made in France et exclusivement pour nous les gars. Et en matière de marque social media, Horace, c'est vraiment un cas d'école. Et de fait, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, Marc. Comment ça va ?
Ça va très bien, très ravi d'être à Lyon, ravi d'être ici au Super Daily.
Ouais, et puis alors merci aussi d'être passé nous voir en pleine fête des Lumières. Voilà, là on est le week-end du 8 décembre à Lyon, donc Lyon est un peu en chantier, on va dire. Il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qui t'a amené sur Lyon, hormis nous, hein? Mais
alors on a une boutique avec qui vous êtes voisin,
totalement,
juste à côté, donc rue de la République. Je passais les voir parce que c'est une boutique qui cartonne. C'est la deuxième boutique qu'on a ouverte en France. En décembre 2020, donc vraiment pile Covid, et j'aime bien faire le tour des boutiques, voir comment ça va, comment ils vont, discuter avec eux, parce que ils ont ce truc de, ils sont avec des gens, des clients toute la journée, donc ils ont toujours des trucs très intéressants à raconter.
Et alors ça sent bon cette boutique. À chaque fois que j'y vais, on en parlait juste en off, là, on a fini par acheter hein, le parfum Horace, hein, ça sent super bon. Voilà, on en met aussi de temps en temps ici. Écoute, j'ai envie qu'on parle de plein de choses. Et alors, juste avant qu'on lance l'enregistrement, tu m'as dit, bah écoute, ça tombe bien, tous ces sujets me parlent de ouf parce que mon premier métier avant de monter Horace, c'était le social media.
Exactement. Donc moi, j'ai commencé ma carrière chez Vans où je m'occupais du marketing et en fait, je suis rentré chez Vans d'abord en stage où je me suis occupé en fait du ce qui à l'époque était du marketing digital. Alors, on parle de... J'étais en stage en 2006.
Ouais.
Ouais, 2006. Ouais, c'est ça. Donc 2007.
Pardon. Une époque que les stagiaires d'aujourd'hui ne connaissent pas, quoi.
2007. Et à une époque où tu avais MySpace, où tu faisais un top friends de 8 personnes. Tu rentrais ton code HTML un peu chelou. Tu pouvais déjà le colorier, ton MySpace, et faire un top 16. Et du coup, c'était...
Ça veut dire que t'as geeké sur MySpace à refaire du CSS,
ouais,
pour essayer de transformer des pages.
À l'époque, il y avait énormément de sites où tu pouvais, en fait, qui t'apprenait à le faire, ouais, très simplement en fait. Donc je me suis amusé à mettre des couleurs et des trucs. Et du coup, donc j'ai découvert ça. J'arrive chez Vans à l'époque, marque que j'adore. Et en fait, c'était un sujet que personne ne maîtrisait. En fait, il fallait commencer à mettre à jour des sites, faire des newsletters. Enfin, newsletter à l'époque, il fallait voir ce que c'était. T'avais du mal à connecter le site déjà à un client email. Et commencer à faire de la com sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, la com sur les réseaux sociaux, c'était MySpace, quoi. Donc, c'est les premiers trucs de tu crées des pages, qu'est-ce que tu racontes, c'était MySpace, quelle musique tu mets, parce qu'il faut quand même mettre dans l'ambiance. Bon, Van, c'était un peu facile. Parce que,
il y avait du NoFX, voilà, ou pas?
Il y a du NoFX, que du coup, oui, tu mettais tous les trucs du Vans Warped Tour, donc oui, NoFX était dedans. Enfin voilà, c'était, pour le coup, ça, c'était facile. Mais c'est quoi ton top friends quand t'es une marque, tu vois?
Ah, c'est chaud, bien sûr.
C'est quoi ton top friends? C'est quoi ta bio? C'est quoi ton logo? Créer des premiers concours et puis commencer à même à bosser, dans une certaine mesure, à faire ce qu'aujourd'hui est de l'influence marketing. Tu commençais à gifter des gens que tu repérais parce que tu avais vu qu'ils mettaient des Vans dans leur profile picture. Donc, tu leur envoyais des trucs, ils te refaisaient une nouvelle profile picture avec la paire que tu avais envoyée. Donc, vraiment, début du truc.
Tout était déjà là. Je dirais, les réflexes étaient déjà là. Les outils étaient différents, hein,
oui,
par
les
contre.
Outils étaient hyper différents.
Allez, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Horace et qu'on revienne à la base. Hein. Horace, c'est. Moi, ce qui m'intéresse vraiment chez Horace, et ce que je trouve qui est très marquant chez cette marque, c'est votre promesse, votre mission, on va dire, de marque. Hein, et je crois comprendre que c'est vraiment une espèce de fil conducteur dans votre prise de parole de marque. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, le why de Horace?
Bien sûr. La mission d'Horace, c'est aider tous les hommes à sentir bien dans leur peau. C'est une phrase qui se découpe en fait en trois parties. À aider tous les hommes à se sentir bien dans leur peau. Aider, ça passe vraiment par... de l'éducation, de la conversation, plein de manières en fait d'aider, c'est montrer des choses, montrer des hommes, montrer plein d'hommes différents, qui nous amènent à tous les hommes, qui a été toujours se dire, voilà, moi j'ai été marqué par une campagne de pub en 2002 de Dove, où c'était la première fois à la télé que tu voyais dans une pub de cosméto, plein de femmes, de morphologie, d'âges différents, de couleurs de peau, en petite tenue parce que t'es, tu vois, mes t-shirts, culottes, et me dire waouh, c'est dingue, il y a des vraies meufs à la télé. Et surtout, c'est à l'époque où je regardais des clips de rap, donc c'était une certaine représentation de la femme. Et en fait, ça m'a toujours marqué de me dire, tiens, c'est bizarre, en fait, il n'y a pas ça pour les hommes, il faut aider tous les hommes, en fait. On n'est pas là pour, on n'est pas tous des David Beckham, c'est OK, en fait, on n'a pas tous envie d'être David Beckham. Donc, aider, aidons tous les hommes, représentons-le, parlons-leur. Et tous les hommes, c'est aussi, on est une marque qui existe, que tu sois un novice, c'est-à-dire que tu achètes ton tout premier produit de soin ever, ou que tu sois hyper expert. Et ça, c'est aussi très important. Et se sentir bien dans sa peau, c'est au sens figuré et au sens littéral, quoi. C'est, tu te sens bien dans ta peau parce que c'est confortable, t'as mis un hydratant visage, t'as la peau qui est confortable, qui est douce. Et te sentir bien dans ta peau parce que tu te sens bien, parce que justement, on te montre des hommes très différents. Tu vas trouver quelqu'un qui te ressemble, on va te parler normalement, on va t'aider à ce que, bah ouais, ta santé mentale, toi, tu te sens mieux, quoi. Et c'est toujours le truc qu'on a, et on a construit tout Horace autour de ça.
Ouais, et ça, c'est intéressant parce que Horace, c'est une marque qui a été créée en 2016. Et à l'époque, eh bien, vous êtes un peu des précurseurs, quand même, sur le marché, on va dire, des soins pour hommes. Voilà, en 2016. On est quand même au tout début, voilà, il y a un certain nombre de tabous aussi qui sont embarqués autour des sujets de la beauté, de la cosmétique pour hommes, etc. Quelles évolutions, toi, tu as pu constater sur le sujet des soins cosmétiques pour hommes depuis 2016?
Je vais parler sur ce sujet, surtout de la France, parce que c'est notre premier marché, on est disponible au UK, mais on n'est pas aux mêmes dimensions. Aujourd'hui, en France, on est dans le top 10 des marques hygiène beauté, à côté des Gillette, des L'Oréal Men Expert, etc. On a, ça va être un peu présomptueux, mais c'est vrai, on a complètement bousculé la catégorie. C'est-à-dire qu'on a démocratisé le soin visage, en fait, du coup, qui sont des produits plus techniques qu'on a tout ce qu'on dit avec des gels douches, des déos, etc. On a complètement bousculé le truc. C'est-à-dire que soudainement, on a montré à plein d'hommes que. Tu pouvais mettre des produits, évidemment, et qu'en plus, il y avait plein de produits qui pouvaient répondre à des préoccupations plus spécifiques. Et ça, c'est complètement novateur, parce qu'on l'a fait à une dimension que personne n'a fait avant en France. On est, pour te donner une idée, hein, à nous tout seuls, l'an dernier, on faisait 10% des ventes de soins visage en online et offline, hein, donc incluant ce que tu achètes chez Carrefour et tout. Et nous, je le vois, ce qui est hallucinant, c'est en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en boutique, à l'équipe. Les hommes sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on croit aux produits, à la beauté. C'est juste que pendant des années, les marques sont dit non, mais les mecs, ils aiment les petites voitures et ils aiment bien sentir un peu la transpi, parce que ça montre qu'ils font du sport. Mais en fait, non, ils sont comme les meufs, ils sont comme tout le monde. T'es content de te sentir bien, t'es content de prendre soin de toi. Il faut juste leur montrer qu'il y a des produits et comment ils s'utilisent. Et c'est, nous, on est parti de ce truc-là, sans a priori, en montrant. En disant, voilà, ça existe. Bah, t'as des cernes, tiens, regarde, en fait, t'as un correcteur, ouais, c'est un truc teinté, mais tu vois. Et c'est ça qui a complètement changé les choses, c'est juste montrer que les trucs existent.
Et alors, Horace, tu disais, c'est une marque qui veut parler à tous les hommes, et du coup, moi, je me pose une question de marketeur, c'est, comment vous avez réussi, sur cette base-là, à travailler vos personas? Parce que toi, qui es un ancien de cette partie, qui est passé par le social media, tu le sais, à un moment donné, on a besoin de personas, persona marketing, persona social media, pour piloter notre ligne éditoriale. Est-ce que ces personas-là, ils sont fixés, et est-ce qu'ils ont évolué aussi avec le temps, avec la vie de la marque?
Ouais, alors, déjà, on a une grille de lecture, qui est un truc que j'avais découvert une fois en glandant sur Internet. Tout le monde connaît, enfin, tout le monde. J'imagine que toi, tu connais, tu sais, t'es innovateur, oui. T'es early adopter, etc. Une fois, je suis tombé sur un mec qui a fait l'association avec des émotions. En disant que, en fait, ton innovateur, c'est un lover de la catégorie. Il vient, il est à fond, il vient parce que t'es nouveau et que tu brilles. La réalité, c'est qu'il est hyper investi dans la catégorie, donc il papillonne. Qu'ensuite, en fait, ton early adopter, c'est quelqu'un qui est un irrational. Irrational, ça veut dire, dans ce cas-là, hein, c'est quelqu'un qui va être surinvesti pour résoudre son problème, qui va être capable de franchir des frais de port beaucoup plus élevés, des prix produits plus élevés, attendre que les choses arrivent plus lentement, parfois en livraison, que quand tu vas juste en bas de chez toi, qui va plus comparer, tu vois, qui va aussi oser acheter une marque qu'il a jamais vue, en fait, comme l'innovator, en fait, tu vois, comme ce lover, du coup. Il aime tellement la catégorie qu'en fait, de toute façon, il est habitué, il essaie plein de trucs. Le mec qui est irrational, il veut tellement résoudre son problème, en fait, qu'il est prêt à perdre 15 euros ou plus, hein, indépendamment. Mais en l'occurrence, pour nous, c'est plutôt 14, c'est plutôt 13-15 euros, donc ça va. Et ça, c'est déjà une première grille de lecture pour nous, à dire, ok, déjà, en fait, on va faire attention à s'adresser à des irrationnels et pas des lovers. Donc des mecs pour qui Horace, du coup, du soin pour le visage, des produits pour les cheveux, pour le corps, vont répondre à une préoccupation hyper importante. C'est ce qui fait qu'on a été aussi vachement drivé dans l'innovation produit par des produits très spécifiques, tu vois.
Qui résolvent un
problème. Qui résolvent des problèmes très spécifiques. Donc, on a construit la marque comme ça. Et ensuite, bon, on est un peu sorti de ça parce qu'à l'arrivée de notre taille, on s'est un peu posé sur les personas. On avait des situations qui étaient assez logiques, mais qui sont en fait aussi de l'observation, tu vois. De toute façon, un homme qui va dépenser un certain montant dans des produits, parce qu'on est quand même un peu plus cher, tu vois, que ce que tu peux trouver en grande surface, c'est qu'a priori, il prend soin de son apparence. Donc, à partir de là, tu peux quand même partir sur un certain nombre d'hypothèses que tu peux vérifier, hein, pour le coup, et les réseaux sociaux, c'est très bien pour ça. Regardant les pages qui sont likées, a priori, le mec, il est un plus gros consommateur de mode ou de vêtements. Il va dépenser plus, il va être sur des marques qui sont un petit peu plus... j'allais dire prestigieux, c'est pas le bon mot, parce que c'est pas prestigieux au sens de...
Un peu plus pointu.
Un peu plus pointu, mais sans non plus nécessairement être sur des choses compliquées. C'est un mec qui va privilégier Uniqlo, par exemple, pour prendre des basiques. Et en fait, on a commencé à le construire comme ça, et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait en fait deux typologies réelles de clients chez nous, ce qu'on appelle des advanced, donc des mecs qui sont très calés en cosmétique, qui adorent ça, et qui ont une vision assez holistique de la cosmétique. C'est... oui, ça doit être bon pour moi, ça doit être aussi bon pour mon environnement, donc je fais quand même attention à ce que j'utilise, à l'empreinte écologique des produits. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle des well-groomed, qui eux, en fait, sont... l'important, c'est surtout leur apparence. Tu vois, la composition typique du produit, c'est moins le sujet. Ils peuvent petit à petit être sensibilisés, parce que c'est aussi à nous de les sensibiliser sur ces sujets-là. Et pour qui, c'est avant tout une question d'apparence. Et tu vois, finalement, on est retombé sur nos pattes, en fait. C'est qu'entre l'intuition et ce qu'on voyait, c'est qu'en fait, c'est des mecs qui sont très investis dans leur apparence, donc assez irrationnels dans leur... jusqu'à un certain point, parce qu'après, tu tombes quand même sur des mecs qui... Enfin, des hommes qui... pour qui c'est pratique d'avoir une boutique à 2 minutes de chez eux.
Ça tombe bien, il y en a une rue de la Rée juste à côté.
Tu vois.
Ouais.
Mais voilà, c'est du coup des hommes qui dépensent un peu plus que la moyenne dans des vêtements, font plus attention, donc du coup aussi font un peu plus attention au regard des autres, etc., de manière, tu vois, et qui, pour qui on vient répondre à des préoccupations spécifiques. Par exemple, ça veut dire que, ouais, bah, on parle pas à un mec pour qui il s'arrête au gel douche, et c'est ok, tu vois, en fait, et qui, en fait, n'a pas vraiment envie de dépenser de l'argent dans son apparence.
Eh ben ça, pour ceux qui nous écoutent, hein, qui, à un moment donné, se sont posés aussi la question de travailler leur persona, comment le faire, etc., Marc, il a raison, il faut savoir faire des choix aussi, hein. Faut savoir avoir un peu de radicalité, hein, dans sa prise de parole, et aussi pour affiner derrière sa stratégie de contenu. Et justement, Horace, c'est une marque qui a toujours beaucoup investi dans le contenu. Moi, je vous suis à peu près depuis le départ, et sur votre site internet, il y avait un truc qui m'avait fait beaucoup kiffer. Je vous suis même à l'époque où vous étiez encore retailer, c'est-à-dire vous vendiez d'autres marques que la vôtre. Je pense que vous commenciez à avoir un ou deux produits, et la première chose, moi, qui m'avait fait tilter, c'était ce que vous aviez investi en contenu dans vos articles, dans vos blogs, dans de la brand utility, hein, de la brand utility avec des articles sur le site web initialement, aujourd'hui des vidéos YouTube super pédagogiques, des formats vidéo courts, hein, là vous êtes à fond dedans, hein, pour expliquer, bah, je sais pas, comment on prend soin de ses cheveux, de sa peau, etc. À quoi elle vous sert exactement, cette stratégie de contenu?
Tu vois, dans la mission, il y a aider. Et le contenu est là pour aider. En fait, c'est sa mission, c'est la mission de la mission, la soumission de la mission. En fait, en fait, on a construit la marque autour de trois choses, enfin une sorte d'oignon qui est... il faut des très bons produits, il faut du très bon conseil, et il faut une très bonne représentation des hommes. Et en fait, cette partie conseil, elle est essentielle parce qu'aujourd'hui, t'as plein d'hommes qui savent pas comment utiliser les produits, pour qui c'est un premier produit qu'ils ont jamais utilisé, ils savent pas dans quel sens, etc. Et du coup...
Et tu sens juste ce point-là, tu sens que c'est différent, t'as la présomption que c'est différent du marché des cosmétiques pour femmes?
Ouais, mais t'as quand même un truc très réel, c'est que c'est moins dans la culture masculine en France, ouais, en Europe et en Occident, mais en général, tu vois. Donc, t'en parles pas à dos. Moi, j'ai pas eu de discussion avec mes potes ados de quel produit tu es sur mon visage. Produit coiffant, ouais, j'ai mis du Pento. C'est un bon choix ou un mauvais choix. Mais...
on a tous mis des trucs dans nos cheveux un jour ou l'autre.
Mais ouais. Tu parles un peu de cheveux et de poils parce que c'est un truc très masculin, mais rentrer sur des trucs de visage ou des trucs même plus compliqué.
Ouais, t'as raison d'ailleurs. Moi, je pense la seule conversation que j'ai eue qui parlait d'esthétique avec mon père, c'est mousse à raser et rasoir. Hein. Voilà. Je pense que c'est la seule que j'ai eue.
Exactement. En plus, dépendamment de la génération, t'avais pas forcément tous ces contenus sur YouTube, etc. Enfin, tu vois, moi, je suis une génération qui, pour le coup, grandit avec MySpace. Il y avait clairement pas de tuto beauté sur MySpace. Donc, j'avais personne pour répondre à mes questions. Et tu te rendais compte que pour plein de mecs, plein d'hommes, ils savaient pas où aller, ils savaient pas à qui poser la question. Ils ne se sentent pas forcément à l'aise de rentrer chez Sephora et de poser la question. Tu vas dans un supermarché, il n'y a personne qui répond à tes questions. Ce n'est pas le but d'un supermarché. Et, donc et tu vois, moi, je discutais avec plein d'amis, etc. Et je fais, en fait, tout le monde a tous des questions. Donc, en fait, on va commencer par faire du contenu. En fait, le contenu, il est là. Il a deux rôles chez nous, de manière générale. En fait, c'est informer, inspirer, enfin, accompagner, inspirer. Donc, accompagner, c'est répondre à des questions, t'accompagner, en fait, avant, après, pendant la vente, après la vente, pour que tu utilises correctement les produits et que du coup, tu en aies les bénéfices. Et inspirer aussi, c'est montrer que, montrer d'autres hommes qui utilisent des produits et qui te donnent envie de le faire et qui te disent « Ah bah ouais, tiens, ce gars, il utilise ce produit, j'ai jamais pensé, et pourtant j'ai le même problème, peut-être que je devrais essayer. » Et on est parti de ça dès le début, c'est-à-dire que preuve hyper concrète, le jour où on enregistre la société, le 11 mars 2015, la première personne qu'on embauche, voilà, puis à l'époque c'était en free, c'est Mathieu Morge Zucconi, qui est aujourd'hui journaliste mode au Figaro, tu vois. Et je le prends pour faire tout le contenu. C'est-à-dire,
Tu veux dire que c'est fondateur qui adore ça.
Et la seconde employée, c'est Élise Kunku, qui est toujours là et qui elle fait le développement produit. C'était OK, en fait, il y a. Ça fait partie des très bons produits. Il faut prendre quelqu'un, Élise, et des très bons conseils, il faut prendre quelqu'un, Mathieu. Et ça a jamais... Ça s'est resté une ligne directrice tout le temps, tout le temps.
Ouais, et alors, il y a cette ligne directrice autour du contenu. Alors là, la stratégie de contenu d'Horace sur les réseaux sociaux, évidemment, allez jeter un coup d'œil. On va en reparler après, hein, des plateformes. Mais il y a du taf et il y a des formats qui sont ultra maîtrisés. J'aimerais bien aussi qu'on parle de co-construction. Parce que Horace, c'est aussi une marque qui s'est bâtie, hein, sur ses principes de co-construction avec ses audiences, ses clients. J'ai même cru comprendre que vous aviez un gros pool d'utilisateurs testeurs, dont je ne fais pas partie, d'ailleurs, je m'en étonne, que vous animiez que vous animiez via les réseaux sociaux. Et ça, j'aimerais beaucoup que tu m'expliques comment ça marche, comment ça s'est organisé, ça.
Alors, en fait, je sais plus comment j'ai appris ça. En gros, je viens pas du secteur, je me mets à acheter tous les livres que je trouve sur Amazon pour le développement de soins de produits cosmétiques, tu vois, pour comprendre c'est quoi un agent de texture, c'est quoi un actif, tu vois, et tout. Et, ça y est. Je discute avec une amie à moi qui, elle, bossait en cosméto à l'époque et en fait me dit, ouais, c'est un truc qui est vachement bien, c'est tu fais des blind tests et tu fais comparer un produit lambda et des produits à toi. Les gens ne savent pas ce que c'est, ils te font des notes. Et du coup, je pense au développement des tout premiers produits. Donc en fait, on crée la société en mars 2015, on lance le développement des premiers produits en juin 2015. Je commence à appeler mes potes en disant voilà, je vais vous appeler, je vais vous envoyer des produits et on va faire des blind tests et après voir ce que ça donne et récupérer les informations. Moi, j'ai aussi un truc important, j'ai un master spé en anthropologie de la consommation. Donc,
D'accord, ok.
Parler aux gens, c'est
parler
un
aux
peu
gens,
un,
comprendre,
c'est un peu,
etc.,
c'est un peu un biais étudiant. Et en fait, on s'est toujours énormément focalisé sur ça. Et du coup, en fait, petit à petit, on a systématisé ça. On est parti d'un truc très à la main où avec des potes. On a d'abord créé un Slack client, tu vois, pour commencer à avoir des conversations, discuter. On s'est rendu compte que c'était pas le super format parce qu'en fait, ça se transformait un peu en un Slack de support client. Mmh. Donc, où est ma commande, c'était plus trop le sujet. Et petit à petit, en fait, on a dit, c'est qu'OK, on va créer une vraie base de données, en fait, avec plein d'hommes qui ont envie d'essayer les produits. Et du coup, on a construit ça. On a 5000 personnes qui sont répertoriées sur un questionnaire qu'ils ont rempli.
C'est énorme. Hein, cette base-là, 5000 personnes, moi, le chiffre m'impressionne.
Hein. Les gens, ils sont trop chauds pour essayer des produits. Non, mais en fait, c'est ça aussi. C'est toujours ça, des produits gratos. Tu les essayes, ouais, on te demande ton avis. Alors, il y a quand même un processus. On s'assure que tu vas quand même vraiment nous répondre, tu vois. Mais tu reçois des produits. Quand tu participes au test, tu reçois le produit fini. Donc il y a quand même j'ai un intérêt à participer.
Donc tu reçois des échantillons.
Ouais.
Tu les testes et puis ensuite, c'est quoi le canal d'échange avec ce...
Alors avec eux, c'est du mail. Okay. Pour le coup, c'est l'équipe de développement produit qui leur part par mail, tu vois, et qui récupère les données. On fait un peu de WhatsApp parce que c'est quand même très pratique pour le coup. Et ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Et à côté de ça, on a un groupe Facebook qui est un groupe de conseil en fait et qui est animé pour le coup par l'équipe d'expérience client où on... Là, on est vraiment dans des trucs de... tu vois, j'ai les cheveux bouclés, comment, qu'est-ce que je vais utiliser comme produit, j'ai des trous dans ma barbe, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Et on a toujours cru... Enfin, en fait, c'est l'avantage. On est une marque en direct. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile d'être, d'avoir la relation directe. Et deux, parce qu'on est une marque en direct, on a toujours construit les produits pour eux, pas pour un revendeur. En fait, on ne construit pas nos produits pour Monoprix, Carrefour ou Sephora. Ce qui est le cas, en fait, des marques de soins. Parce qu'en fait, elles doivent s'adapter aux contraintes de leurs revendeurs. Nous, on n'en a rien à foutre, en fait. On fait ça pour des clients. Et ça, c'est, en fait, c'est une chance de dingue.
Mais tu vois, je trouve que c'est très intéressant ce que tu racontes là, parce que bien souvent, nous qui sommes une agence social media, nous posons la question, quel est le retour sur investissement des réseaux sociaux ? C'est la question magnifique qu'on adore. Et bien souvent, dans la réponse, ça serait tentant de dire, bah, tu peux toucher beaucoup de monde, t'as la portée, etc., etc., tu peux cibler. Bon. Je crois aussi qu'il y a beaucoup à tirer en insight des réseaux sociaux, et le principe de co-construction que vous développez depuis le départ, hein. Donner du contenu, obtenir des retours d'utilisateurs, c'est un ROI inestimable.
Ouais, complètement. En fait, dépendamment de ton objectif, tu peux faire énormément de choses avec les réseaux sociaux parce que c'est un accès direct à des gens. Et c'est quand même incroyable, quoi, parce que essayer de faire la même chose dans la rue, c'est un peu plus compliqué, les gens sont pressés, etc. Là, en fait, t'es en train de glander sur ton ordi ou ton téléphone. Qu'en fait, les gens sont hyper OP, quoi.
Et là, vous avez concrètement, il y a des produits vraiment que vous avez travaillé ou jusqu'à l'aboutissement final, main dans la main avec les clients.
Bah, en fait, tous. En gros, on écoute. Enfin, déjà, on discute, on écoute avec eux. Tu vois, les problématiques qu'ils ont, parfois les mêmes les idées produits, parce qu'ils sont aussi très spontanément peuvent me dire, ok, j'ai envie d'un.
J'avais un masque bleu.
Qu'est-ce qu'on a sorti ou qui avait été sorti texto et on se disait que ça fonctionne. On se posait la question si ça fonctionnerait ou pas. Attends, je crois que c'était le parfum. En fait, le parfum, le mec, il nous demandait le parfum, il nous disait, bah, on fait du soin, c'est quand même un peu un stretch, quoi, de faire du parfum. Et après, nous, on adore tous le parfum au bureau, on fait, bah, vas-y, on va essayer, tu vois. Et ça a fonctionné. Et en fait, tu te rends compte que pour les mecs, c'était hyper cohérent de faire du parfum. Donc, en fait, on part de l'idée, on les implique dans les tests. Donc, en gros, on fait des équivalent de ce qui est en test réglementaire avec eux. Donc, une fois que c'est validé avec eux, on va le faire en vrai test réglementaire, donc avec un laboratoire indépendant, parce que tu as quand même passé par un certain process pour être homologué. Et on les lance aussi avec eux. On fait énormément de contenu grâce et avec les utilisateurs, quoi.
Ouais. Et justement, quand on parcourt aujourd'hui le compte Instagram d'Horace, allez, 70 000 followers, allez jeter un petit coup d'œil, Horace Co, je crois, sur Instagram, deux têtes, et ben on trouve une multitude de contenus UGC, User Generated Content. En gros, c'est quoi? C'est des mecs qui montrent leur routine beauté, qui montrent comment ils utilisent les produits Horace, etc. Comment est-ce que vous organisez cette production de contenu UGC? Est-ce que c'est lié au pool de testeurs, ou est-ce que c'est encore autre chose?
C'est autre chose. Parce qu'en fait, on a d'abord essayé avec le pool de testeurs, on s'est rendu compte d'un truc tout con, c'est que tout le monde n'est pas à l'aise devant une caméra.
Ah, bien sûr.
Parce qu'il faut être à l'aise devant une caméra, il faut être à l'aise à appliquer des soins, en parler devant une caméra, ce qui est un geste intime, tu vois, pour le coup. Donc finalement, on a fait autrement. Déjà, on a commencé avec des potes, parce qu'il y a toujours un truc qui fonctionne très bien, parce que c'est tes potes qui se te rendent un peu service, tu vois. Et en fait, petit à petit, on a construit en fait un pool de gens avec qui on fait des contenus. On a essayé des différents modèles, on a aussi testé, tu vois, par une plateforme qui s'appelle Tister, mais
ouais,
pour nous, ça fonctionnait pas.
On a essayé ça, ouais, retour mitigé, nous aussi.
Voilà,
de ce qu'on a pu tester.
Tu vois, et en fait, finalement, on le fait par nous-mêmes, c'est beaucoup plus simple, donc on va caster, en fait, c'est du casting, quoi.
Ouais, justement, comment tu castes? Parce que ça aussi, les profils là, des gars qu'on voit sur le compte Horace, c'est extrêmement, comme tu l'as dit, hein, c'est extrêmement inclusif. Il y a tout le profil de mec. Et ça, j'aimerais savoir comment tu arrives à ce niveau de
sourcing. Tu vas sur Insta, quoi.
Ouais.
Tu vas sur Insta. C'est vraiment. Tu vois, c'est et TikTok, pas que sur, tu vois, sur Insta et TikTok, tu vois, tu as aussi des contenus qui apparaissent, en l'occurrence beaucoup dans TikTok, pour moins dans Insta, et on se les partage, on les garde même pour plus tard, et tu vois, et puis après, à un moment, en fait, on sort tellement régulièrement des produits que de toute façon, tu as des gens qui t'ont bossé et qui sont très bien pour cet autre produit avec qui tu vas retravailler. Et c'est vraiment, et de toute façon, en plus, on caste énormément pour les shootings produits.
Ouais, c'est
donc
ça.
En fait, on va prendre les mêmes mecs parfois qui ont fait des shootings produits pour faire des USC, en fait.
Donc c'est quoi aujourd'hui, ces gars-là sont des ambassadeurs de marque? Est-ce que c'est des, sont des key opinion? Est-ce que vous allez les chercher pour leur capacité d'influence ou pour leur capacité de création de contenu?
Non, les gens qu'on prend pour faire des contenus sont pris pour leur capacité à faire des contenus.
Ouais.
Ça peut être parfois du coup des gens qui ont un certain nombre de followers, mais le but premier, c'est vraiment pas ça. Et après, il y en a d'autres fois, on a besoin de gens qui ont des followers et on les prend plus pour ça. Après, voilà, t'as des ponts pour le coup.
Bien sûr.
T'en as un peu moins chez les mecs parce qu'en vrai, t'as pas beaucoup de gros comptes beauté homme, en fait. Ça existe pas. Ou alors, c'est des comptes make-up, mais c'est, du coup, c'est différent. C'est des audiences de nana, c'est pas la même chose. Pour le coup, donc c'est vraiment. Ouais, c'est des gens qu'on prend que pour ça, quoi.
Et alors, puisque tu parlais de TikTok, j'ai vu que vous étiez sur TikTok, je crois que ça fait à peu près un an, hein, si j'ai bien regardé. J'ai
ouais,
un petit
plus
peu
ou moins, ouais.
Ouais, c'est ça. C'est quoi tes premiers retours, toi, en tant qu'annonceur sur la plateforme?
Alors, il y a deux retours différents. T'as un retour ads, un retour organique. Ads, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à faire. T'as quand même une pression qui est moindre aussi.
Ouais. Donc c'est moins cher. Hein,
donc en fait, c'est moins cher. Ouais. Exactement.
T'es content des capacités de ciblage? C'est moins bien que Meta. Hein.
C'est moins bien que Meta. Mais Meta, c'est un truc de dingue. Ouais. En fait, le truc, c'est que Meta, et même post-RGPD, ça reste un truc de dingue. En fait. Donc bon. Mais c'est moins bien. Il y a eu plus de bugs. Le setup a été plus compliqué. C'est mieux que Snapchat.
Oui, c'est vrai.
Pour le coup. Voilà, là, c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi créativement, parce que t'as un nombre de formats, d'idées. C'est vraiment l'enfant entre Vine et YouTube, quoi. C'est-à-dire que Vine, c'était 6 secondes, c'était ingérable, du coup, mais ça n'a jamais décollé. YouTube, c'est du format divertissement. Enfin, voilà, c'est du divertissement avec des gens qui ont des idées de dingue, quoi. Donc, en fait, c'est super. Et après, en organique, on n'a jamais réussi à percer. Là. Enfin, pour le moment, on va y arriver, c'est sûr. C'est quand même vraiment une autre manière de faire des contenus réseaux sociaux. Et du coup, ça nécessite, et c'est l'important qu'on le fasse, on le fait maintenant aujourd'hui, de juste y passer vraiment du temps, quoi.
Ouais. Est-ce que tu sens, parce que ce qui fait la grosse diff et ce qu'on annonce tous, hein, c'est qu'effectivement on a un tsunami qui nous arrive dessus, c'est la modification des algorithmes avec une bascule vers les algorithmes de recommandation par centre d'intérêt communautaire, ce qui peut faire vraiment les faveurs d'une marque comme Horace, hein, le sujet de la cosmétique, peut-être du bien-être, en extended, etc. Est-ce que du coup ça, t'as le sentiment que ça change la manière d'aborder la production de contenu quand on est une marque?
Sur TikTok, ouais. Sur TikTok, en organique, complètement. Parce que, en fait, il faut... C'est... Déjà, en fait, Instagram, t'as des règles esthétiques pour savoir ce qui fonctionne. Donc, en fait, c'est assez... Bon, TikTok aussi, d'une certaine manière, c'est très beau pour que les gens s'intéressent à un contenu Insta. Mine de rien, c'est une plateforme où on privilégie normalement l'esthétisme. C'est hyper différent sur TikTok. TikTok, l'important, c'est le divertissement. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être regarder des vidéos de boutons, ça peut être regarder des vidéos de gens qui nettoient des choses, chacun est diverti par des sujets différents. Et où le accrocher des gens avec des trucs le plus étonnant possible, ce qui est aussi du coup ouvre des portes beaucoup plus importantes que Insta. Ça change les choses parce que du coup tu fais pas les mêmes contenus. Et la réalité, c'est que les réseaux sociaux en organique comme en pub, ce qui fonctionne, c'est un contenu qui ressemble à ce qui cartonne en organique.
Ouais.
Donc, ouais, là, en gros, nous, on a les contenus réalisés. Nous, on est fort pour faire des contenus pour Insta. Aujourd'hui, il faut qu'on réapprenne complètement à faire des contenus pour TikTok.
Ouais, bah on en est un peu tous là, j'ai l'impression. En tout cas, bon nombre d'annonceurs. Alors, on a quelques success stories, mais c'est vrai que c'est un challenge. Hein. Pour les marques, ça oblige vraiment à revoir un peu sa copie, à penser TikTok. Hein. Je le disais en intro, initialement, vous êtes un pur player digital. C'est vraiment ça, Horace. Hein. Une DNVB, on peut dire, ou pas?
Ouais,
je crois que le mot commence à se galvauder un peu.
Non, mais oui, si. Ouais. Enfin, on coche les trucs. On est une marque née sur Internet et essentiellement vertical.
C'est ça. Mais Horace, aujourd'hui, eh ben, ce sont aussi des boutiques. Voilà, il y en a une, on l'a dit, pas loin d'ici, rue de la République à Lyon. Et si un jour vous rentrez dans une boutique Horace, eh bien, vous allez constater qu'on retrouve vraiment, je trouve, la tonalité et le mood de la marque, hein, qui a été travaillé sur les réseaux. Moi, en tout cas, c'est le contact que j'avais avec la marque. Il était exclusivement digital. Et quand je suis rentré pour la première fois dans la boutique à Lyon, j'étais dans le même univers. Et ça, je suis très intéressé de savoir comment vous avez bossé cette expérience en boutique pour qu'elle soit la suite logique de l'expérience digitale.
Déjà, on a tous bossé en boutique, au bureau, à l'époque. C'est-à-dire qu'on a fait un premier pop-up en septembre 2018 à Paris, où à l'époque, on était 8 dans l'équipe. Et on a fait une rotation sur les 7 jours de la semaine. Donc en l'occurrence, c'était Kim, mon associé et moi qui étions le samedi et le dimanche. Qu'est-ce qu'on voulait et comment on voulait accueillir les gens, comment les gens avaient envie d'être accueillis aussi, parce qu'il faut que ça marche dans les deux, faut que ça fonctionne dans les deux sens. Et on l'a refait, c'est-à-dire qu'on a refait un pop-up, on en a fait plusieurs, et du coup, le deuxième, on a encore tous vendu, donc on a encore appris une nouvelle fois à le faire. Et après, c'était vachement de... C'est aussi beaucoup lié au recrutement, en fait. Et un des trucs qui joue beaucoup, c'est qu'on recrute beaucoup de clients.
Ouais, ça se sent en fait.
En fait, à partir de là, t'as des gens qui sont un peu dans le même mood. Parce que on a toujours une approche, on est hyper respectueux, on vous voit le client, tu vois, online, en boutique. Par contre, on l'appelle par son prénom. Et c'était un truc de oui, on est dans une certaine distance parce que t'as pas forcément envie de te faire tutoyer de prime abord. Mais on va quand même t'appeler par ton prénom parce que c'est un peu plus décontracté. C'est pour ça qu'ils sont en t-shirt, ils sont en sweat, tu vois, en chino, en basket, et qu'ils s'habillent et ils ont les cheveux comme ils ont envie, tu vois. C'est pour tous les hommes, donc c'est pareil en fait. Et c'est toujours ce truc, tu vois. L'accessibilité, ça passe beaucoup par le ton, ça passe par ton look, ça passe par le sourire, tu vois, bonjour, comment ça va, tu vois, ça fait toujours plaisir. Et on a juste diffusé ça, et après, ouais, on a recruté par des clients. On me dit ça ouais. Joue de dingue, quoi.
Mais aujourd'hui, je trouve que ça, c'est une vraie réussite, parce que parfois, il y a des marques qui sont dans des complications. Alors souvent, c'est parce qu'elles sont parties dans l'autre sens. Elles ont d'abord eu des implantations physiques, puis ensuite, elles ont travaillé une prise de parole sur les réseaux sociaux, et puis on voit petit à petit un décalage entre les deux. Et je pense notamment à tes confrères, tes marques consoeurs, on va dire, dans l'univers de la beauté, etc. L'univers de marque qui est travaillé par les gros, hein, les Sephora, les Marionneau, etc. Quand tu vas en boutique, c'est pas la même chose. Je trouve que c'est très décalé. Et ça, c'est intéressant de voir comment vous avez bossé ça, peut-être parce que vous l'avez pris dans l'autre sens.
Ouais, après, je pense qu'il y a... On a aussi pas la même taille. Tu vois, le jour où t'as... je crois que c'est 350 Sephora, tu vois. Ce jour où t'as 350 Sephora, tu fais... Le jour où on a 350 boutiques Horace en France...
Ça sera dur à maintenir, tu veux dire.
Je pense qu'on recrutera peut-être plus que des clients, tu vois. Ouais. Donc, t'as ça. Et après, parce qu'aujourd'hui, on a 10 boutiques. Donc, c'est aussi plus facile, tu vois, d'avoir des gens qui sont proches de la marque et qui sont clients. Et après, c'est aussi une culture où, en fait, dans la boîte, on a une culture très accessible. Tu vois, moi, je les connais tous, hein, les conseillers. Je me souviens pas tous les prénoms les premiers jours ou semaines parce qu'ils viennent d'arriver, mais je les connais, je les retiens, je leur parle, tu vois, Kim, mon associé, c'est pareil. Donc on a cette culture accessible, elle existe à l'interne, en fait.
C'est combien de personnes aura aujourd'hui, la boîte?
Bonne question. En plus, on vient d'ouvrir une boutique à Saint-Germain, où du coup, ça fait 4 personnes en plus. Je pense qu'on est 80-85.
Okay. Ouais, ça reste encore une petite maison.
Oui, ça reste encore petit. Mais... Et en fait, ce truc d'être accessible, c'est dans la boîte, en fait. C'est pas du coup, ça vit avec les clients, ça vit en vrai, et on s'assure que tu comprennes pourquoi on le fait. C'est-à-dire que on explique à un conseiller, mais en fait, accueille comme t'as envie d'être accueilli, quoi. Ouais.
Aujourd'hui, Horace, c'est aussi une stratégie et c'est ma très poussée. Et ça, je voulais qu'on aborde ce sujet parce que vous êtes calés, hein, les amis, chez Horace. À l'heure où on se parle, Horace diffuse simultanément 210 campagnes publicitaires différentes sur Facebook et Instagram. C'est pas moi qui invente ce chiffre, je suis allé glaner cette info sur Facebook Ads Library. Je vous mets le lien, hein, vous pouvez, c'est une info publique, hein, donc je dévoile rien de... Voilà. Et ça, c'est très très poussé quand même, 210 campagnes. Hein. Et visiblement, y a de l'A-B testing dans tous les sens, du retargeting très ciblé, c'est du lourd. Est-ce que ça, c'est fait en interne?
Ouais,
Ok. D'où ça vient, cette culture très forte du SMA?
Moi, je viens de ça, en fait. Ouais. Donc, en gros, j'ai commencé par l'organique. Puis un jour, il y a eu des pubs sur Facebook. Je fais, tiens, c'est pas mal comme truc. Et du coup, j'ai fait les premières pubs sur Facebook à l'époque où tu pouvais gagner que des fans, en fait. Mmh. C'était génial, hein, du coup, ça coûtait que dalle. Tout le monde devenait fan des trucs. Et en fait, j'ai grandi avec l'outil Facebook Pub. On l'a géré en interne pendant très longtemps. Après, on a eu une première employée, Pénélope, qui l'a repris avec moi, en fait. Et en fait, un des trucs qui était assez dingue, c'est qu'on s'est retrouvés à plusieurs moments, tu vois, un peu pour des raisons XY, on avait besoin de capacités supplémentaires à prendre d'agence, et on éclatait toutes les agences, mais toutes les agences.
Tu veux dire quoi, vous les éclatiez?
On avait des meilleures pertes, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune agence qu'on a prise, mais aucune, dont certaines qui sont passées à télé, machin, qui ont eu des meilleures pertes que nous. Et parce qu'en fait, je sais pas comment on a réussi à créer cette culture. Moi, le truc, c'est que l'outil, je le connais. Enfin, là, je suis moins dans l'opérationnel de l'outil. Je suis honnête, mais jusqu'à 2019, moi, je le maîtrise sur le bout des doigts, le truc.
Est-ce que tu ouvres encore de temps en temps un peu le business manager?
Oui, parce que ça m'arrive d'aller mater des trucs. Ouais. Pour le coup, ça a vachement changé. C'est quand même vachement plus abouti. C'est un outil de dingue, le business Facebook. C'est un truc, surtout quand tu compares, voilà, à des TikTok, à Snap, même à Google, hein.
Ouais, ouais, ouais.
C'est un truc hyper hyper avancé.
Est-ce que vous avez senti à un moment donné une bascule quand il y a eu cette guéguerre entre Meta et iOS, et notamment la fin de la possibilité de ciblage?
J'ai plus l'impact exact en tête, mais oui, on l'a vu, il y a des performances, ouais, qui sont dégradées. Après, comme tout le monde, en fait. En fait, le truc, moi, là-dessus, je me plains jamais de ce genre de truc, parce que de toute façon, on est tous dans la même merde. Donc, en fait, ouais, ok, ça se détériore, mais de toute façon, c'est pareil pour tout le monde, quoi. Comme la RGPD, en fait, c'est pareil pour tout le monde. Donc, en fait, à un moment, de toute façon, tu fais avec. Et du coup, on s'est pas pris la tête sur ça. On s'est dit, bon, bah, ok, on va quand même trouver des solutions, quoi. Et le truc qui nous a aidé, et tu t'en parlais, c'est qu'on a réussi aussi à scaler le volume de contenu qu'on est capable de diffuser. Et maintenant, on a un process aussi interne, tu vois, qui va vraiment de l'équipe qui s'occupe du paid social jusqu'à l'équipe créa qui va livrer les contenus, qui est organisée, qui est mieux organisée, où on livre. Mais vraiment, je crois que Maxence, qui s'occupe de toute l'acquisition chez nous, me disait, je crois qu'on fait 3 fois plus de contenu que l'an dernier en prod. Et du coup, eux, ça leur permet de nourrir, en fait, en l'occurrence, Meta, tout le temps, parce que c'est quand même une machine en termes de besoin de contenu, c'est un gouffre, quoi. Et on renouvelle, quoi. Et ça nous a aidé à, en fait, du coup, contrebalancer la baisse des perfs liées à des iOS, des RGPD, en disant, bah, en fait, on va contrer en le nourrissant, quoi, tout le temps.
Et là, 80 personnes, combien de personnes dédiées au paid social
là,
chez
ils sont
chez
pas tant que ça. Il y a donc Maxence qui dirige la Keys, et il a une alternante, et après, il a Morgane, qui s'appelle Salomé, l'alternante, et il a Morgane au-dessus d'elle, tu vois, qui vraiment s'occupe de la partie paid.
Ça bosse, média, hein. Ça bosse, les gars, bravo. Voilà, j'en profite. Je leur glisse un petit mot, ça bosse, c'est solide. Avec une question pour moi quand même, comment vous gérez le sujet du retargeting? Ça, c'est un sujet, vraiment, j'avais hâte de qu'on se croise, parce que je vous vois beaucoup. Je vous vois parfois trop avec un sujet clé pour moi, c'est comment est-ce que vous avez réussi à craquer la prise en compte de l'acte d'achat dans l'arrêt du retargeting? Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Oui, si. Bah, en fait, on a créé des custom events, hein, pour le coup, à un moment. En fait, déjà, un des trucs qui nous a vachement aidé, c'est qu'on a fait des intégrations tech très très tôt chez Horace. C'est-à-dire qu'en gros, on a des outils comme Segment qui nous ont permis de, en gros, diffuser. En fait, Segment, c'est un code de base, un snippet, quoi, qui te permet de diffuser le même event dans tous tes softwares. Donc, en gros, que ce soit ton software email dans Google, dans Meta, d'avoir la même info au même moment, et du coup, d'avoir les mêmes events. Donc, fait que t'as un achat qui est commencé, un achat qui s'est terminé, qu'est-ce qu'il y a dans le panier, etc. Et en fait, ça, on l'a vachement...
Ça, c'est déjà très avancé, hein. Vous n'êtes pas nombreux à aller aussi loin.
Ouais,
hein.
Mais en fait, c'est ça, on l'a fait dès le début. Ouais. C'est un truc, mais ça, c'est aussi lié à mon associé, qui est, pour le coup, très tech. Et du coup, on est très complémentaires sur ça. C'est que moi, j'ai grandi avec digital marketing, et lui, Il est très tech.
Est-ce que tu es en train de me dire que si j'achète le masque de beauté bleu, vous arrêtez de me retargeter ou pas? Parce que si c'est ça, je fais le choix ce soir.
Pendant un certain temps, mais après tu vas revenir dans le truc. Après, non, mais ça, c'est pour le coup, la question de la pression média, c'est un vrai sujet. Mais Facebook a fait un choix, enfin Meta a fait un choix qui est rarissime. Ils ont décidé de ne pas caper. Alors que tu ne peux pas, c'est un des rares outils en fait, de pub où tu ne peux pas caper en disant bon, attends, là ça va après 7 fois. J'arrête parce que c'est une des règles marketing de base que j'ai apprise. C'est ta pression média pour que les gens se souviennent de toi, c'est 3 minimum.
Mémorisation, ouais,
7
c'est
maximum.
Ça, bien sûr.
7, tu commences à les faire chier. Ouais, mais Meta, ils ont dit on a rien à foutre des 7. Je vais jamais empêcher
spendez,
les gens.
Les gars,
et donc en fait, ouais, voilà. Bah ouais. C'est qu'en fait, du coup, tu spends comme un ouf. Et du coup, on s'est outillé en fait très vite dès le début pour du coup pouvoir segmenter de manière super précise. Après, il y a une réalité. Facebook préfère que tu segmentes pas. Donc, en gros, on est maintenant sur des segmentations qui sont très simples. De...
Là, vous avez de la technique du broad, comme on dit. C'est-à-dire, vous envoyez la sauce et puis vous laissez l'IA de Facebook.
Bah
de
ouais, en fait, on a essayé hein, plein de fois, hein, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que tu as des meilleures perfs quand tu es en broad audience, quoi.
Ça va intéresser Jordan chez nous. Pardon, excuse-moi, j'en profite là. Récemment, on a eu une discussion là-dessus, très intéressant. Je constate aussi dans vos pubs qu'une partie de votre contenu, il est réalisé en anglais. Alors, dans les pubs, mais aussi d'ailleurs sur les réseaux, hein, sur TikTok, etc. C'est quoi aujourd'hui la part de l'international dans le business d'Horace?
C'est une douzaine de pourcents.
Okay.
Ce qui est pour le coup plutôt une bonne part pour une boîte. Enfin, il y a pas beaucoup de boîtes consumer françaises qui arrivent quand même à s'exporter. C'est essentiellement le UK, nous. Il y a un peu de Belgique, un peu de Suisse. C'est essentiellement du Royaume-Uni. Donc, on commence, tu vois, c'est un point hyper intéressant. C'est que du coup, on localise. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pas forcément localisé. J'ai appris à tourner des pubs en anglais. Je parle anglais, donc ça va, mais j'ai tourné des pubs en anglais parce que voilà, c'est un contenu pour ça qu'on voit assez souvent, c'est que c'est un contenu qui cartonne. Donc en fait, Maxence, dans les briefs, tous les lancements produits, toutes les opérations marketing, je dois faire une vidéo parce que ça fonctionne. Et du coup, bah, on a fait banquer, on commence à dupliquer. Et du coup, on commence à localiser, tester des choses, voir ce que ça donne. Il y a des choses différentes, mais il y a aussi, en fait, des trucs qui reviennent et qui sont les mêmes. C'est que typiquement, là, on commence à avoir que c'est à peu près le même contenu, en tout cas au Royaume-Uni, je ne veux pas généraliser tu vois, sur d'autres pays, mais à peu près le même genre de contenu qui fonctionne.
Ah ok, donc ça c'est intéressant. Ça faisait partie de mes questions. C'est est-ce que du coup, stratégie de contenu, il faut adapter, régionaliser, hormis la langue, est-ce qu'il y a un sujet sur le fond ou alors en fait, un gars, un anglais, c'est un gars un français, c'est la même chose. Ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes besoins.
C'est quand même des voisins. Tu remets, tu vois, on est en train de... Tu vois, c'est déjà... On vit à côté, on a une culture quand même assez similaire. Ils sont plus avancés sur les soins que nous, donc ils ont des... Tu peux les emmener sur des choses un peu plus techniques, pour le coup.
J'aurais pas imaginé, tu vois, c'est marrant.
Si, si.
Okay,
et
d'accord.
En fait, mais après, c'est que la typologie de format aujourd'hui qui fonctionne, donc que ce soit de l'UGC, en face cam, etc., ou même des formats nature morte, hein, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne partout en fait. Enfin, ça fonctionne au UK, ça fonctionne au US. Si tu regardes les top performers, tu peux voir, c'est après la même chose. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est toute la vague de contenu hyper TikTok qui est en train d'arriver dans les pubs, qui n'existait pas du tout avant.
Mais tu veux dire le même format, 15 secondes, ultra efficace.
Ouais, des trucs incrustation fond vert un peu dégueu, tu vois, ou les trucs avec des gros yeux intégrés, tu vois, c'est des trucs qui n'existaient pas
vu
avant.
J'ai vu ce contenu, les gros yeux intégrés sur le bouteille.
Ça marche bien, tu vois. Ça marche bien, moi ça m'a fait mourir de rire de le faire, pour le coup. Et en fait, tu vois, t'as cette nouvelle vague de contenu, en fait, finalement, on est tous sur les mêmes algos, enfin, tu vois, en fait... Facebook, enfin Meta, du coup Facebook, Insta, TikTok, c'est disponible en France, au UK, aux US, tu vois. Donc ça norme énormément ce qu'on consomme, quoi.
Ouais, Horace, on l'a dit tout à l'heure, c'est une marque qui est conçue et fabriquée en France. Et je te disais, juste avant qu'on commence l'enregistrement de cet épisode, on a reçu ici Guillaume Gibault, le slip français, le patron du slip français, qui nous expliquait que pour lui, le Made in France, c'était un challenge vraiment énormissime. Et du coup, question hein, pour Horace, marque Made in France aussi. Est-ce que le Made in France, le fabriquer en France, c'est plus un engagement ou un facteur de différenciation ou un fardeau? C'est quoi exactement?
Nous, c'est un choix en fait dès le début. Et c'est lié au fait qu'on est le leader mondial. La France est le leader mondial de la cosmétique. Et du coup, on a un vivier incroyable, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu as des formation excellente, du coup, des gens excellents. T'as des... Vu qu'aussi, tu as les meilleures entreprises, parce que t'as, en France, tu as L'Oréal, tu as Coty, tu as LVMH, qui font de la, tous de la cosmétique, où du coup, c'est des gens qui sont brillants. Et en plus de ça, tu as un tissu industriel, mais c'est incroyable. En France, on a un truc qui s'appelle la Cosmetic Valley, qui est en fait une zone qui est entre l'Île-de-France jusqu'en Normandie, qui descend un petit peu dans le centre de la France, tu vois, et qui est une des zones principales de production cosmétique en France. Tu as énormément d'usines dans le sud de la France. On a Grasse, qui est la capitale mondiale du parfum.
Donc, ce que tu es en train de me dire, fabriquer Made in France, c'est pas si compliqué que ça quand on est dans la cosmétique. Hein.
Ultra simple. Ouais. En fait, t'as aucune raison de faire ça ailleurs parce que les infrastructures, la superstructure est là, c'est génial. Et en fait, moi, ça, je savais pas non plus. Encore une fois, Kim, on n'est pas de ce secteur-là au début. Bah, je me dis, bon, je sais pas comment ça se passe, où est-ce que je vais produire, on sait rien. Je cherche les fabricants parce que faut quand même des outils, c'est quand même des grosses marmites. Qui... Enfin, tu vois, on fait des produits, on est marmites de 5 tonnes, donc tout le monde a. Je ne peux pas faire ça chez moi. Et en fait, je me dis, je vais en l'occurrence, je commence à trouver un répertoire. Je fais, putain, mais c'est dingue, il y a des usines partout, quoi. Partout. Et tu te dis, c'est génial. C'est-à-dire que c'est un vraie industrie porteuse. C'est-à-dire que ça crée beaucoup d'emplois. Tu as plein de gens qui en vivent.
Et est-ce qu'une petite marque qui arrive comme toi, là, est-ce qu'elle est bien accueillie? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu as tout le monde qui se crispe et qui dit, attends, ici, c'est chez nous.
Combien j'ai mailé de je ne peux pas dire de conneries. J'ai dû mailer les 15 ou 20 labos. J'en ai 3 qui m'ont répondu.
OK.
Sur les 3, il y en a une qui ne nous a pas du tout prise au sérieux. Donc il en restait que 2. Donc j'étais quand même à un 10%, tu vois, à peu près. Bon, c'est pas mal 10% de conversion, hein, quand on compare à conversion oui, sur okay. Internet, tu vois. Mais bon, et en fait, tu te rendais compte que, vu les quantités qu'on voulait faire à l'époque, la première production, c'était 2500 produits.
Ah ouais.
2500 unités par produit.
Oui, ça, c'est à peine un échantillonnage.
Oui, t'étais sur des, du coup, des cuves, donc ces fameuses marmites qui étaient même pas de... 150 kilos qui n'étaient même pas pleines. Donc, tu vois. Et en fait, j'étais là, bah ouais, c'est un pari, quoi. Et ça a été compliqué de les convaincre. Il a fallu leur montrer que ça allait fonctionner, quoi. Ce qui n'était pas forcément gagné dès le début. Et on a quand même réussi, en fait. C'est ça, je trouve ça quand même vachement bien parce que, ouais, ok, il y en a 10% qui me répondent. Après, peut-être que j'ai envoyé ça avant l'été. Je pense que j'avais envoyé ça à la rentrée.
Il y a ça aussi.
J'envoie ça fin juin, début juillet. Je pense que c'est pas le moment où t'as
Bah maintenant qu'il fait partie des gros, Marc, il va te dire non, vous êtes les bienvenus. Ah, mais, venez avec
maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est eux qui viennent nous voir. Mais alors, en fait, finalement, c'est pas mal des gens qui ont accueilli, des gens qui nous ont fait confiance, tu vois. C'est une chance aussi.
Donc, écosystème plutôt bienveillant, incroyable. Tu dirais, en tout cas, pour développer. Toi, t'as pas eu de frein. Et est-ce que, à l'international, là, aujourd'hui, tu nous as dit, c'était un objectif, hein, Doras, en tout cas, il y avait des opportunités. Est-ce que c'est une force aujourd'hui d'être une marque de cosmétiques française, Made in France?
Grave.
C'est comme l'accent un peu. Quand t'arrives en Angleterre,
ouais,
tu parles avec l'accent.
Toujours le mot baguette. en vrai, on est réputé pour un certain nombre de choses en France, d'un point de vue produit. On est réputé pour la gastronomie, le vin, de manière générale, la mode. Et on est réputé pour les cosmétos et le parfum, quoi.
Ouais.
En fait, c'est incroyable. Et du coup, oui, les gens parlent de nous plus facilement.
Donc, c'est un unfair advantage clair.
Et ouais.
Ouais.
Et ça, c'était...
On en a
ouais,
hein, de temps en temps.
Bah ouais, c'est très bien. Hein. C'est très, très bien.
Allez, ultime question. Hein, parce que là, en face de moi, j'ai failli d'ailleurs en intro dire j'ai avec moi Marc de Horace. Parce que Horace, c'est vraiment une marque qui est fortement incarnée. Hein. Elle est incarnée par toi, Marc. Voilà, Marc de Horace. Je me souviens même dès le départ, hein, je recevais des emails Marc de Horace. C'était comme ça que je crois que tu signais tes emails. C'est quoi la force aujourd'hui d'une marque incarnée?
En fait, il y a...
À quoi ça sert?
Il y a un truc IP qui a quand même vachement changé avec les réseaux sociaux dans la manière dont nous tous, et je pense particulièrement des générations qu'on grandit avec, approchent les marques. C'est que t'as un besoin de proximité parce que tu te rends compte que ça existe. Et c'est marrant parce que c'est une manière dont Sartre a expliqué ce qu'était le luxe. Pour Sartre, le luxe, c'est le fait qu'il y ait la relation la plus proche entre le producteur et le consommateur. Qu'en fait, du coup, t'as cette relation directe et c'est ce qui fait que t'as une relation privilégiée dans le produit et dans tes demandes. Et les réseaux sociaux, ça a complètement fait péter les barrières où du coup, soudainement, bah, ce besoin de proximité, tu pouvais le voir, tu peux savoir qui était, pourquoi ils le faisaient, tu vois. Est-ce qu'ils sont sympas? C'est quand même un vrai, tu vois, à un moment, tu vois le nombre d'histoires de gens, et notamment de mecs qui sortent avec quand même un paquet de trucs un peu dégueulasses, t'as aussi envie de savoir que t'achètes à des gens sympas. Et les réseaux sociaux, c'est super pour ça. C'est qu'en fait, tu peux parler à tout le monde et on a envie de savoir. En fait, ça change tout. Et pouvoir t'adresser aux gens, c'est incroyable. Et moi, j'ai découvert, en fait, d'abord par le mail, ça, cette force de ça, avant les réseaux sociaux, parce que t'avais une base mail et tu pouvais envoyer à tous tes clients une histoire en signant Marc de Horace. Tu vois, on l'a fait, Kim l'a fait, Élise l'a fait, tu vois.
Moi, j'ai trippé, alors, je m'excuse, on fait une digression, mais je trippais à l'époque où vous avez été les premiers, à ma connaissance, à faire ça. C'est des techniques de gros hacking sur les emails où ils envoyaient des mails où il y a marqué re, comme si tu étais dans une suite de mails et in fine, tu avais un bout de conversation.
C'est
très
un
malin.
Faux transfert. C'était la, ouais, le, on
très
fait
malin.
Ça pour un lancement produit, on avait fait un faux transfert. Ça, a
ça date, ça, c'était quoi? On était en 2015, 2016, peut-être, à peu près?
Non, parce que les premiers produits, c'est novembre 2016. Le premier produit, c'est novembre 2016. Je pense que c'est été 2017. Et je me souviens, j'étais au musée avec ma compagne. Elle en avait trop marre. Elle fait « Putain, mais t'es que sur ton téléphone. » Je fais « Ah, mais en fait, on a fait un email, il marche trop bien. » Et en fait, on se fait éclater. Tout le monde répond.
Et là, déjà, c'était ultra incarné parce que c'était une conversation entre toi et ton associé, je crois.
En fait, ouais, il y avait quatre personnes dans la boîte. Il y avait Mathieu, Élise, Kim et moi.
Donc vous avez, si je résume le truc, vous avez fait faussement fuiter une sorte de conversation privée entre quatre personnes de la boîte à toute la base de données Horace sur un lancement de produit.
C'était une conversation entre, du coup, Élise qui disait que le produit était arrivé, Mathieu que les contenus étaient faits, Kim disait que c'était en ligne, et du coup, moi qui transférais cet email en disant « C'est bon, c'est lancé ». Et avec le nom du produit et un lien. Et les gens étaient là genre, mais vous nous avez envoyé un mail interne, là? Non. En fait, c'est fait exprès. Et c'est dingue, c'est la première fois que j'ai vu un screenshot d'un email sur un Twitter, tu vois. Ah ouais. Et en fait, c'est ce truc qui est dingue avec le mail aussi, tu vois, qui est un truc hyper sous-estimé. C'est qu'en fait, tu peux parler aux gens. Et les gens te répondent. Et pas que... des gens âgés, quoi. C'était des gens qui nous... Tu vois, j'ai répondu ce matin dans le train, donc j'étais dans le train de Paris-Lyon, j'ai répondu à un client qui fait le choix de me répondre à moi à un mail automatique. Tu vois, je lui ai répondu parce que je le fais, en fait, c'est normal, s'il se prend la tête à changer le mail pour me répondre, je vais quand même prendre le temps de lui répondre. Et en fait, on a découvert, en fait, après ça, sur les réseaux sociaux, en commençant à faire du facecam, en disant, putain, mais c'est dingue, quoi. En fait, on faisait du facecam, d'abord en organique. Je sentais que les gens accrochaient beaucoup plus aux stories, en fait. Et on a commencé à le faire en pub, et en fait, là, tu te rends compte que ça cartonne, quoi.
Ouais, donc on veut voir des gens, on veut voir des gueules, on veut voir qui est derrière le produit qu'on va aller acheter.
Bah
quoi.
Ouais.
Ouais. Bah ça se tient. Écoute, en tout cas, moi j'ai eu la chance de t'avoir allé une petite heure ici en face de moi, Marc de Horace. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Super échange, merci pour toutes ces infos. Je suis sûr que vous qui nous écoutez là, vous avez pris plein de petites choses aussi pour nourrir vos stratégies marketing. Où est-ce qu'on peut te suivre? Si on veut suivre Marc de Horace en personne, où est-ce que c'est le mieux?
Oh, mon Instagram, MRCBT.
Voilà, et regardez, c'est ça, c'est direct de l'auditeur au producteur. Merci à toi, merci beaucoup.
Merci.
Et puis évidemment, allez suivre Horace sur les réseaux sociaux. Et donc, je crois qu'il y a une ouverture de boutique sur Paris, c'est ça, une nouvelle?
Yes.
C'est quoi, c'est la 11e du coup, c'est ça?
C'est la 10e, boulevard Saint-Germain à Paris, première rive gauche. Il y en a d'autres qui vont arriver au premier trimestre.
Voilà, tout est dit. Merci à toi, merci beaucoup Marc. Au plaisir de t'accueillir une prochaine fois à Lyon. Quand tu passes, tu viens nous voir, tu sais où on est.
Merci de m'avoir accueilli.
Merci à toi, salut, ciao, bye bye.